Vous écoutez, on lit pour vous.
L'apprentissage de l'IA doit commencer le plus tôt possible. Un texte de Noémie Girard, paru le 15 juillet 2025 dans la presse. Selon l'auteur, l'école a un rôle à jouer afin de permettre aux enfants de développer leur esprit critique face à l'intelligence artificielle, IA. Noémie Girard, chargée de cours de français langue seconde en milieu universitaire et enseignante en francisation. L'IA est entrée dans nos vies, bousculant nos habitudes de travail, notre façon d'apprendre et de concevoir. L'heure n'est plus à la censure, mais à l'encadrement de l'IA dans nos établissements scolaires. Elle doit devenir un objet d'étude à l'école, pour éveiller l'esprit critique des apprenants. Notre génération a eu la chance de voir naître l'IA. Ce ne sera pas le cas des suivantes. Nous vivons un moment charnière de l'histoire, mais nous négligeons l'essentiel. Comment la nouvelle génération utilise-t-elle l'IA? Jusqu'où lui ferait-elle confiance? Derrière chaque question que l'on pose au grand modèle de langage, LLM, comme ChatGPT, Gemini, Claude et les autres systèmes d'IA, il faut une personne bien formée pour comprendre la réponse, vérifier l'information et orienter correctement le prompt. L'IA n'a pas été entraînée à reconnaître son ignorance. Elle poursuivra la discussion, parfois jusqu'à l'hallucination. Il est donc crucial de continuer à former les élèves pour les aider à devenir des spécialistes de leur domaine de prédilection. Mais l'éducation doit-elle pour autant proscrire l'usage de l'IA? Que se passera-t-il si l'on n'encadre pas son utilisation dès le plus jeune âge? N'est-ce pas là ce qui devrait nous inquiéter, nous qui avons vu naître l'outil, compris son potentiel, mais aussi ses limites et ses dangers? L'Institut canadien de recherche avancée, CIFAR, admet qu'il est urgent de renforcer la littératie en matière d'IA de la maternelle à la cinquième secondaire et au-delà. Il décrit d'ailleurs les compétences numériques des enfants canadiens comme faibles, inégales et largement corrélées au niveau de compétences de leurs parents et de leur situation socio-économique. Dans un reportage de Chloé Sondervost, Joshua Bengio, l'un des plus grands experts mondiaux en matière d'intelligence artificielle, souligne l'importance de cultiver l'esprit critique face à l'IA dès l'enfance. Un vide dans la formation. Pourtant, au Québec, les initiatives proposées pour ouvrir la discussion sur l'IA peinent encore à trouver leur place dans les cursus scolaires. Il existerait même, selon Andréane Sabourin-Laflamme, cofondatrice du Laboratoire d'éthique du numérique et de l'IA, un vide dans la formation actuelle. L'expression n'est pas anodine. Elle souligne une carence dans notre encadrement pédagogique. En Finlande, des initiatives éducatives comme Generation AI proposent, à contrario, d'aider les élèves du primaire à comprendre ce qu'est une IA, comment elle fonctionne, mais aussi où elle peut se tromper. Les enfants sont invités à repérer les biais, à interroger les résultats des algorithmes et à réfléchir aux enjeux éthiques de cet outil. Au Royaume-Uni, en réponse aux émeutes qui ont suivi l'attaque au couteau survenue à Southport, plusieurs projets pédagogiques ont vu le jour. Ces interventions suscite des réflexions cruciales autour de l'IA. Images qu'elle génère, des informations qui en découlent, rôle des algorithmes dans nos choix quotidiens. Le contraste est flagrant. Là où le Canada et le Québec traitent encore ces questions en marge des programmes de cycle supérieur, d'autres pays en font un véritable enjeu pédagogique dès la fin du primaire. Or, de plus en plus de scientifiques, de pédagogues et d'économistes à travers le monde s'accordent sur l'urgence d'introduire la littératie en IA plus tôt dans le parcours scolaire. Face à la montée en puissance de l'IA, il est urgent de développer l'esprit critique de nos enfants, de leur apprendre à croiser les informations, à les confirmer ou à les infirmer à l'aide de sources fiables. Et si nous osions, nous aussi, initier les élèves à l'IA, former les maîtres pour aiguiser les esprits de demain? C'était « L'apprentissage de l'IA doit commencer le plus tôt possible », un texte de Noémie Girard, paru le 15 juillet 2025 dans la presse.
Comprendre l'avis de la Cour de la Haye sur le climat en 5 questions. Un texte d'Alexis Riopel, paru le 23 juillet 2025 dans Le Devoir. Quel était le mandat de la Cour internationale de justice, CIJ? En 2023, l'Organisation des Nations unies, ONU, avait demandé à la CIJ quelles sont, en droit international, les obligations qui incombent aux États en ce qui a trait à la protection du climat. Elle demandait aussi quelles sont les conséquences juridiques pour les fautifs en regard de ces obligations. Il pourrait bien s'agir de l'affaire juridique la plus importante de l'histoire de l'humanité, déclarait l'an dernier Ralph Rejenvanou, le représentant de Vanuatu, un petit pays menacé par la montée des eaux, qui avait lancé l'initiative auprès de l'ONU aux audiences de la Cour mondiale à La Haye. Selon la Cour, quelles sont les obligations des États? Le nouvel avis de la CIJ n'invente pas de nouveaux droits internationaux, mais juxtapose plusieurs cadres existants. Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, accord de Paris, droit de la mer, droit de la personne, etc. Ça donne une photographie de l'état actuel du droit international sur les changements climatiques, explique Géraud de Lassus Saint-Geniès, un professeur de droit des changements climatiques à l'Université Laval. En brossant ce portrait, la Cour montre que ce n'est pas simplement de la politique, poursuit M. de Lassus. Il y a des règles et si vous ne les respectez pas, il y aura des conséquences, dit le chercheur. Et ça, ça n'avait jamais été dit clairement. Dans les traités internationaux, on contourne souvent le problème de la responsabilité en mettant en place des mécanismes de promotion de la conformité. L'avis explique que les États n'ont pas simplement l'obligation de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, GES, mais plutôt d'exercer la diligence requise pour y arriver. Les juges de la CIJ ajoutent qu'en vertu du principe de prévention, tous les États doivent faire des efforts à la hauteur de la menace. On comprend entre les lignes que même les États-Unis, qui boudent l'accord de Paris, sont visés. En examinant l'ensemble du droit international, la CIJ s'est aussi penchée sur les droits de la personne. Elle estime qu'un environnement propre, sain et durable est une condition préalable à la jouissance de nombreux droits de la personne, dont le droit à la vie. Il y a une innovation, dit M. de Lassus Saint-Geniès. En clair, la Cour affirme qu'on ne peut pas respecter les droits de la personne dans un environnement pollué. Comment comprendre la vie en contexte canadien? Dans son mémoire, déposé à l'automne 2024, le Canada arguait devant la CIJ que les divers leviers du droit international ne devaient pas imposer des obligations juridiques contraires à celles qui sont soigneusement négociées dans les conférences climatiques. D'autres pays pollueurs voulaient aussi éviter que l'interprétation de la CIJ crée de nouvelles obligations. Avec son langage clair sur les faits illicites que commettent les États négligents, la CIJ met les points sur les i. Par ailleurs, les magistrats écrivent « Le fait pour un État de ne pas prendre les mesures appropriées pour protéger le système climatique contre les émissions de GES, notamment en produisant ou en utilisant des combustibles fossiles ou en octroyant des permis d'exploration ou des subventions pour les combustibles fossiles, peut constituer un fait internationalement illicite attribuable à cet État. » Au Canada, le gouvernement se montre favorable au projet de pétrole carboneutre, rejetant du revers de la main les émissions générées lors de la combustion. L'avis de la CIJ se montre-t-il critique d'une telle approche? Absolument, répond M. de Lassus Saint-Geniès. Le professeur se demande d'ailleurs si la loi sur l'unité de l'économie canadienne du gouvernement Carney, qui vise à accélérer les grands projets, dont les pipelines, contrevient à la nouvelle interprétation de la Cour internationale. À quelles conséquences juridiques s'expose un État délinquant? Les juges onusiens écrivent noir sur blanc que les États qui posent des gestes illicites en matière de climat s'exposent à des conséquences juridiques et doivent cesser la faute puis la réparer. Une indemnisation pourrait devoir être versée aux États lésés. Les torts et les châtiments devront être jugés au cas par cas. Cette mécanique n'est pas nouvelle, mais la Cour clarifie un élément qui, historiquement, compliquait les poursuites. La causalité des dégâts climatiques. En effet, l'avis consultatif précise que, bien qu'il soit difficile de prouver une relation de causalité en matière de climat, comment montrer que les émissions de CO2 en Chine inondent les îles Tuvalu? Cela n'est pas impossible. La causalité peut être appréciée de façon un peu plus souple, fait remarquer M. de Lassus Saint-Geniès. Quelle suite? L'avis consultatif de la CIJ pourra donner de l'eau au moulin des poursuites climatiques infranationales débattues dans les tribunaux du monde entier. Sur la scène internationale, toutefois, M. de Lassus ne s'attend pas à ce que le nouveau texte débouche de sitôt sur des poursuites. Les États insulaires ont obtenu une avancée importante avec l'établissement du Fonds pour les pertes et les préjudices en 2022. Je crois que l'objectif des États sont à l'origine de la démarche à la CIJ, dont Vanuatu, n'était pas forcément de développer un contentieux interétatique, mais plutôt de clarifier les obligations des États afin d'avoir des arguments supplémentaires dans le cadre des négociations internationales, dit-il. Pour venir à bout des changements climatiques, même les juges de la CIJ estiment que le droit international ne sera qu'un outil parmi d'autres. Ils écrivent « La solution complète à ce problème, qui nous accable, mais que nous avons créé nous-mêmes, requiert la contribution de l'ensemble des domaines de connaissances humaines, que ce soit le droit, la science, l'économie ou tout autre. Surtout, ajoute-t-il, une solution durable et satisfaisante requiert la volonté et la sagesse humaine, à l'échelle des individus, de la société et des politiques, pour modifier nos habitudes, notre confort et notre mode de vie actuel et garantir ainsi un avenir à nous-mêmes et à ceux qui nous suivront. C'était « Comprendre l'avis de la Cour de la Haye sur le climat en 5 questions ». Un texte d'Alexis Riopel paru le 23 juillet 2025 dans Le Devoir.
Mon nouveau frère, un texte de Rose-Aimée Autonne-Témorin paru le 8 juin 2025 dans La Presse. J'ai un nouveau grand frère. Je l'ai rencontré le 25 mai 2025. On s'écrivait depuis quelques mois, mais c'était la première fois qu'on se voyait. J'étais à Ottawa, sa ville à lui. Je m'apprêtais à participer à ma première course officielle. Sa femme et lui seraient postés au 5e kilomètre du parcours. Il m'avait prévenu. Je lui avais envoyé une photo de mon kit pour qu'il puisse me repérer parmi les 7000 coureurs. Sur la ligne de départ, je ne savais toujours pas quoi faire en le voyant. « Comment tu salues l'enfant que ton père a abandonné alors que toi, il t'a gardé? » La course a été lancée. Chaque foulée me rapprochait de lui. J'essayais de me concentrer sur les affiches loufoques des spectateurs venus encourager les sportifs du dimanche. Je souriais en écoutant les applaudissements. Tout pour ne pas penser au mal qui avait été fait. Plus les kilomètres défilaient, plus mon cœur s'emballait. Je courais pour le voir, lui. Lui qui avait justement fait de la course une carrière, qui s'était tricoté une vie d'athlète pour se sortir d'un contexte familial difficile et accéder aux études supérieures. Qui était passé de coureur à professeur à l'université, d'enfant sans père à homme de famille présent. Je savais qu'il existait. Je devais avoir 7 ou 8 ans quand mon père m'a appris qu'il avait eu d'autres enfants, il y a longtemps, et qu'il ne les avait pas élevés. J'ignore si je devais me sentir chanceuse ou voir là-dedans la menace d'un homme capable de fuir. Je l'ignore encore. Je m'étais souvent demandé comment je réagirais si je rencontrais l'un d'eux un jour. La réponse était simple. Coupable. Je me sentirais coupable d'avoir reçu de l'amour et de l'attention de la part d'un homme qui les avait privés de ses ressources essentielles. Quand Ziba m'a écrit sur Facebook, « Salut, je ne sais pas trop comment te dire ça, mais je suis ton frère. » La culpabilité m'a effectivement envahi, mais elle a vite fait place à l'empathie, voire à l'admiration. Plus j'en découvrais sur lui, plus je me demandais comment on peut arriver à être si résilient. Et comment on peut bien accepter de tisser des liens avec une sœur qui a reçu ce qu'on aurait dû, nous aussi, recevoir. À 4,5 kilomètres, je me suis tourné pour voir si mon amoureux était près de moi. Il était bien là, ça m'a rassuré. J'ai couru plus vite. J'étais prête. Je l'ai reconnu tout de suite. Il était entouré d'autres spectateurs, mais c'était clair. Cet homme était mon frère. Un test d'ADN l'avait déjà prouvé. C'est pas Ancestry qui a trouvé sa famille Morin. Mais là, c'était une évidence. L'homme au 5e kilomètre ressemblait à mon père, à mes frères aussi. Il ressemblait à quelqu'un que j'aurais dû connaître toute ma vie. Alors, comment on salue un nouveau frère? Je ne sais pas. Mais moi, je me suis spontanément lancé dans ses bras, qu'il a ouvert sans hésiter. C'est l'instinct qui a tout dicté. Puis, en bon athlète, Ziba m'a gentiment dit de courir, qu'on allait se voir le lendemain de toute façon. Je suis reparti et j'ai souri jusqu'à la ligne d'arrivée. Ce n'est qu'une fois le chronomètre arrêté que la digue a cédé. J'ai éclaté en pleurs, comme si, d'un coup, le fantôme de mon père me visitait 20 ans après sa mort, comme si je pouvais enfin me libérer d'une lourdeur imposée très tôt ici. Dans son plus récent livre, « L'homme au camion », la grande Louise Dupré mène une enquête sur son grand-père paternel qui a abandonné ses enfants. Elle écrit « Je sentais obscurément que j'avais hérité du poids d'une histoire qui ne m'appartenait pas. » Je reconnaissais ce poids. Les décisions de mon père ne m'appartenaient pas, mais je les subissais tout de même. À partir de maintenant, toutefois, j'avais un mot à dire sur la suite des choses. Mon frère m'intéressait. Sa femme m'intéressait. Ou devrais-je dire, ma belle-sœur m'intéressait. Leur fille, mes nièces, m'intéressaient. Une partie de l'histoire, la nôtre, était à construire. Mais ça venait avec un second deuil à faire. Comme l'écrit Louise Dupré, quand la douleur est attribuable à un homme qui n'a pas protégé ses enfants, il est difficile de lui accorder le pardon. J'étais fâché contre mon père. Je le suis toujours. La colère côtoie l'étrange bonheur de découvrir une vie connectée. Ne serait-ce que par le sang, à la mienne. À la sienne aussi, je l'admets. C'est doux. C'est amer. Le lendemain, Ziba a cuisiné pour nous. J'ai posé une tonne de questions. J'ai essayé de saisir les trajectoires de chacun et je me suis laissé impressionner par la famille brillante que je rencontrais. Puis, tandis qu'on dînait, j'ai peut-être compris pourquoi il acceptait de me tendre la main, alors qu'il aurait franchement tous les droits de ne rien vouloir savoir de moi. Ziba a dit « Je trouve du réconfort dans le fait que notre père se soit suffisamment amélioré pour avoir été un père décent pour toi et Pierre-Xavier, notre petit frère. » J'ai gardé le silence avant de répondre. « Merci. » Il n'y avait rien d'autre à dire. C'était « Mon nouveau frère », un texte de Rose-Aimée Autonne-Témorin, paru le 8 juillet 2025 dans La Presse.
Visite historique à Batoche. Une journée de mémoire et d'intégration. Un texte de Samblojean Marseille, paru le 8 juillet 2025 dans L'Eau vive. Le 5 juillet, Batoche, lieu historique national situé à 1 heure au nord de Saskatoon, a accueilli une 60aine de participants. Venus en famille, ces derniers ont profité d'une journée dédiée à la mémoire et à l'histoire de la résistance métisse et francophone. Organisé par Vitalité 55+, et le Service d'accueil et d'inclusion francophone, SAIF, en collaboration avec la Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan, CAFS, cette journée a permis de plonger dans un épisode clé de l'histoire du Canada, la bataille de Batoche de 1885. Les participants ont été accueillis sur le lieu emblématique de la rébellion métisse par un guide francophone qui leur a présenté le site historique comprenant l'église et la maison de l'époque. Un film de 40 minutes sur la bataille a également été projeté. Un moment fort pour tous, particulièrement pour les enfants curieux de découvrir l'histoire du pays dans lequel ils vivent. Marie-Diane Clark, professeure de français à l'Université de la Saskatchewan, témoigne de son expérience sur place. « Je connaissais déjà l'histoire de Batoche, mais mon étudiant a écrit un mémoire sur le sujet. C'est important de comprendre l'histoire de la région. C'est une belle initiative, surtout pour les jeunes. » Découvrir l'histoire du pays. Pour certains, comme Fannam Kanfeli, nouvel arrivant, cette sortie était une occasion précieuse de mieux connaître le Canada. En tant que nouveaux arrivants, il est essentiel de comprendre l'histoire du pays. Cela nous aide à mieux nous intégrer, indique-t-il. Florian Balde, coordinateur pour Vitalité 55+, a exprimé lui aussi sa satisfaction. « C'est une belle journée. Voir tout le monde heureux, des familles et des enfants aussi nombreux, c'est une grande joie. Les enfants ont posé beaucoup de questions, ce qui montre leur intérêt pour l'histoire. » Le directeur général de CAFS, Melchior Nyongkuru, a également souligné la participation de la communauté. C'est un honneur de voir nos nouveaux arrivants s'engager dans la découverte de l'histoire du Canada. Cela montre l'importance de ces événements pour l'intégration. Le pique-nique partagé à la fin a aussi permis des échanges précieux. Golnush Sarlak, représentante du SAIF, ajoute « Nous avons eu de très bons retours de cette journée. » Les participants étaient curieux et les échanges ont été très enrichissants. Voir les enfants et les parents poser des questions avec autant d'intérêt me fait plaisir. Marguerite Unjet, une participante, a souligné que même si elle avait déjà visité Batoche, elle était heureuse d'y revenir. « J'ai appris beaucoup de nouvelles choses aujourd'hui. » Vitalité 55+ a fait une belle proposition et je suis contente de voir des familles et des nouveaux arrivants participer à cette activité. Yves Bacra, venu avec sa famille, a exprimé sa gratitude. « Je suis content que mes enfants puissent découvrir l'histoire du Canada. C'est une belle journée et cela contribue à notre intégration. C'était aussi en français, ce qui est un plus. » Face au succès de l'initiative, les organisateurs ont d'ores et déjà annoncé la préparation d'autres activités similaires pour continuer à renforcer l'engagement communautaire et favoriser la découverte de l'histoire du Canada. C'était « Visite historique à Batoche, une journée de mémoire et d'intégration ». Un texte de Samblot Jean Marseille, paru le 8 juillet 2025 dans L'Eau vive.